Radio Kapi.
Les FARDC annoncent des mesures pour imposer l'autorité de l'État dans les territoires de Lubero au Nord Kivu où sévissent des groupes armés. Ces groupes perçoivent des taxes illégales auprès des commerçants et commettent des exactions contre la population civile. Et puis l'année scolaire 2022-2023 a été lancée officiellement hier lundi sur l'ensemble du pays à Kinshasa. Sur les sentiments d'espoir qui se dégagent de la plupart d'élèves, parents et enseignants. Dans ce journal, nous ferons la ronde dans certaines écoles de la capitale. Enfin, la FAO, le PAM et l'UNICEF collaborent sur le projet intitulé « Renforcement de la résilience des communautés affectées par des crises à l'est du pays », financé par les fonds allemands. Pour en parler, nous recevons dans cette édition du journal Antoine Maleka, chargé d'éducation à l'UNICEF. Voilà tout pour les sommets. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et merci de nous recevoir chez vous pour cette édition du journal. Au Nord Kivu, l'armée annonce des mesures pour imposer l'autorité de l'État dans plusieurs villages de l'axe Ndiapanda Mangurijipa dans les territoires de Lubero où certains groupes armés Mai Mai sont actifs. Selon la société civile locale, ces groupes perçoivent des taxes illégales auprès des commerçants et commettent des exactions contre la population civile. Le porte-parole du secteur opérationnel Sukula 1 Grand Nord indique que l'armée est déjà informée de la situation et promet d'y mettre fin. Écoutez le capitaine Anthony Molouchey qui explique au micro d'André Kitenge.
Nous avons pris l'engagement de renforcer l'effectif de militaires dans ces villages pour, n'est-ce pas, donner la paix à notre population et imposer l'autorité de l'État dans cette zone. Vous êtes sans ignorer que depuis un certain temps, plusieurs groupes armés à Mai Mai se sont formés et certains sont en train de faire allégeance au groupe terroriste ADF-MTM pour, n'est-ce pas, continuer à commettre des exactions contre notre population. Nous, en tant qu'armée, nous sommes informés suffisamment de tout ce qui se passe et nous avons déjà pris des mesures sécuritaires pour contrecarrer ces hors-la-loi à commettre des actions contre notre population. Donc, la population des Ndiapanda, la population des Mangurijipa, la population du territoire des Lubero doit être rassurée que l'armée ne ménagera aucun effort pour imposer l'autorité de l'État dans cette zone.
Et puis, en Ituri, des leaders du groupe armé Union des Révolutionnaires pour la Défense du Peuple Congolais Codeco et des membres de la communauté Lori qui regroupe le peuple Lendu échange depuis hier lundi à Bunia sur la consolidation du processus de paix dans les territoires de Djougou. C'est en présence des autorités provinciales sous la facilitation de la MONUSCO. L'objectif, selon les organisateurs, est d'harmoniser les points de vue sur l'autonomisation de cette milice en cette période transitoire entre l'engagement pour la cessation des hostilités et la mise en œuvre du programme de DDRCS. Marcel Kizabiamungu.
Pendant deux jours, les membres de la communauté Lori et les leaderships de IRDPC Barkodeko vont échanger sur un projet piloté par le gouverneur des provinces sur l'auto-prise en charge des miliciens de la Codeco pour les relèvements communautaires avant le début effectif du programme des DRCS. Les questions liées aussi à la discipline et au respect des droits de l'homme par les éléments de la Codeco seront aussi abordées dans l'objectif de mettre fin aux exactions contre la population qui se poursuivent malgré la signature en mai dernier d'un acte d'engagement pour la cessation des hostilités par ces groupes armés. Dieudonné Safari Diba, coordonnateur de Lori venu de Kinshasa, explique les enjeux de ces assises.
Ce projet consiste à les amener vers des activités qui peuvent faciliter leur intégration ou réintégration communautaire.
Le vice-gouverneur de province, le général Benjamin Alonga Boni, qui a procédé au lancement de ces concertations, appelle le leader de la Codeco a instauré la discipline au sein de leurs troupes pour que ces processus aboutissent à une paix durable. Notons que c'est la troisième rencontre de ce genre après celle des membres des communautés Bira et Lendu Bindi associés au groupe armé FPIC et FRPI, toujours avec l'appui logistique de la MONUSCO. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Autre nouvelle à présent, les infrastructures routières dans la province du Nord Kivu connaissent plusieurs défis. Ce sont notamment des ponts d'intérêt économique qui s'effondrent. D'autres menacent de céder en cette période pluvieuse si rien n'est fait dans l'urgence, alerte le conseiller du gouverneur en matière d'infrastructure en province. Maître David Kamoua plaide en faveur du décaissement des fonds par le gouvernement pour leur construction et réhabilitation. Pierrot et la Mégie.
À l'instar du pont Migégé, reliant le territoire de Massissi à celui de Walikale, emporté la semaine dernière, il y a beaucoup d'autres ponts à travers la province qui connaissent des problèmes, a fait savoir le conseiller du gouverneur. C'était à l'issue d'une réunion la semaine dernière entre le gouvernement provincial, l'office des routes et quelques attributaires. C'est notamment les ponts qui relient l'Ouganda et la RDC au niveau des Ishasha dans le territoire de Rutshuru. Ces ponts d'intérêt national mais aussi provincial connaissent plusieurs fissures et menaces décédées. Maître David Kamoua estime que l'intervention urgente du gouvernement central dans le décaissement des fonds s'avère indispensable avant que les pires n'arrivent.
Nous venons de nous mettre d'accord sur les programmes. Nous allons transmettre immédiatement les devis au pouvoir central. Vous savez, c'est une route d'intérêt provincial mais aussi national puisqu'elle relie deux républiques. Nous plaidons ici à faveur de décaissement des fonds pour nous permettre d'entamer les travaux de grande envergure sur cet axe. C'est une route d'intérêt très capitale.
Signalons que les trafics restent coupés entre Kalembe et Pinga depuis 5 jours maintenant. Des véhicules transportant des vivres et non-vivres déchargent leurs produits de l'autre côté de la rive et sont transportés à même la tête. Grâce aux initiatives locales, un pont en corde a été jeté sur la rivière Moisso pour faciliter la traversée des piétons, affirme le député Alexis Baunga.
Et puis parlons de ce plaidoyer de la vice-première ministre en charge de l'environnement et développement durable pour l'amélioration de la finance climat dont bénéficie également la République démocratique du Congo. F. Bazaïba l'a déclaré hier lundi à l'ouverture officielle de la conférence scientifique sur la pré-COP COP 27 à Yangambi, territoire d'Isangi dans la province de la Tchopo. La cérémonie a été présidée par le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé en présence de quelques membres du gouvernement. Reportage Paul Matendo.
Il faut un changement radical, insiste Eve Bazaïba, pour améliorer la protection des forêts congolaises.
Yangambi et les restes de la RDC du bassin du Congo avaient besoin d'un changement radical en vue d'améliorer notre capacité à protéger nos forêts. C'est ainsi mon plaidoyer pour l'amélioration de la finance climat destinée au bassin du Congo.
Toujours selon elle, en dépit de ses potentialités, Yangambi est actuellement en pleine ruine.
Yangambi aujourd'hui est en ruine. Comme vous l'avez certainement constaté, la cité est sans infrastructure pour la population et surtout sans alternative pour la survie.
Pour Madeleine Nikomba, gouverneure de la Tchopo, cette conférence devra produire des résolutions pratiques pour sa province.
Toute la province de la Tchopo entend de ses assises des résolutions qui permettront également aux populations autochtones de bénéficier des avantages de la gestion de la biodiversité.
Jean-Michel Samalou Kondé, pour sa part, rassure. Les plaidoyers faits par sa collaboratrice Eve Bazaïba est bel et bien capté. De Yangambi, dans la province de la Tchopo, Paul Matendo, Radio Okapi.
Autre nouvelle, la coalition Initiative pour les droits et les ressources, RRI, rappelle le fait que si le soutien financier vers les pays forestiers tropicaux est directement mis à disposition des peuples autochtones pygmées en RDC et communautés locales et des populations d'ascendance africaine, cela contribuerait à la réalisation de leurs priorités économiques, des conservations et à leur autodétermination. C'est ce qui justifie la réunion stratégique tenue hier lundi ici à Kinshasa par cette coalition de plusieurs organisations au niveau mondial qui travaillent sur la question des droits fonciers des communautés autochtones, locales et afro-descendants. Patrick Kapoukou, directeur Afrique du RRI, Coalition Initiative pour les droits et les ressources, donne quelques explications dans cet extrait que nous propose Billy Ivan Lutumba.
Et aujourd'hui, si la RDC doit contribuer efficacement, effectivement, à une meilleure gestion des forêts par la réduction de la déforestation et la dégradation de la forêt, ça veut dire que les communautés autochtones doivent jouer un rôle vraiment de devant. Et pour cela, la reconnaissance défense de leurs droits, l'investissement dans le renforcement de leurs moyens de subsistance est un élément très très important et c'est pour ça que nous sommes en train de militer. Comment faire en sorte que les financements dans les cadres de changement climatique atteignent les communautés autochtones locales, soient définis en tenant compte des priorités de ces communautés-là? Comment les communautés participent à la mise en place, à l'élaboration des politiques de gestion forestière et de gestion foncière? Comment est-ce que les communautés peuvent définir elles-mêmes les stratégies de conservation de la biodiversité, mais aussi contribuer à leur mise en œuvre effective sur le terrain?
Nous l'avons dit au sommaire, mesdames et messieurs, l'année scolaire 2022-2023 a été lancée officiellement hier lundi sur l'ensemble du pays, vous le savez. Ici à Kinshasa, c'est le sentiment d'espoir qui se dégage de la plupart de élèves, parents et enseignants interrogés par notre reporter. Espoir de voir cette ambiance du début, caractérisée par la bonne volonté de toutes les parties de ne pas perturber les enseignements et se poursuivre jusqu'au bout. Et pour y arriver, élèves et parents estiment que la plus grande responsabilité revient au gouvernement. Grâce à Mzati, a visité l'école Collège Saint-Joseph, Likia et le lycée Bossangani suivaient son reportage.
Dans ces établissements, la joie était perceptible sur le visage des élèves heureux de reprendre les chemins de l'école. Témoignage.
J'ai un bon sentiment parce que l'année passée, il y avait de grèves. Mais je suis sûr que cette année, il n'y aura pas de grève comme l'année passée.
J'espère qu'on va bien étudier sans des interruptions.
On a fait 2 mois à la maison. Comme on est rentré, on va s'améliorer et apprendre de nouveaux cours.
Je veux qu'on puisse tous bien étudier, qu'on puisse réussir et qu'on puisse amener la fierté du Congo.
Moukata Jean-Jacques, enseignant au collège Élie, qui partage les mêmes sentiments.
Nous sommes très contents d'être avec les élèves. Étant parents, notre souci est de dispenser la matière auprès de nos élèves. Notre souci est que l'année puisse se passer en bonne et due forme.
Les parents qui ont accompagné leurs enfants au collège Elikia, tout comme au lycée Bossangani, ont appelé le gouvernement à multiplier les efforts pour la cause des enseignants.
Je suis très contente pour cet événement. Nous demandons aux autorités d'améliorer encore parce que ça commence déjà bien.
Exceptionnellement cette année, l'année scolaire a commencé sans grève. Nous saluons tous les efforts d'abord du gouvernement par rapport à l'accompagnement de nos enfants, surtout ces déprimés.
Le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a lors du lancement officiel de la rentrée scolaire 2022-2023, réitéré la volonté du gouvernement de maintenir et consolider la gratuité de l'enseignement des bases.
À Kananga, la mairie interdit l'utilisation abusive des mineurs dans les jeux du hasard. Une décision prise à la suite de la rentrée des classes pour permettre aux enfants d'être à l'école et de bien étudier. Le comité urbain des enfants qui avait fait un plaidoyer en ce sens salue cette mesure qui protège les mineurs. L'ONG Enfants Avenir veut des sanctions exemplaires pour les sociétés qui organisent ces jeux au cas où elles continuent à utiliser les enfants. François Kadima nous en parle.
La décision est contenue dans un communiqué officiel signé par le maire intérimaire de Kananga. Ayant constaté l'engouement des enfants devant les sociétés qui organisent les jeux du hasard sur la ville, l'autorité urbaine a pris cette mesure pour permettre aux enfants d'aller à l'école. Une satisfaction pour le comité urbain des enfants qui, dans un plaidoyer, avait demandé à la mairie de prendre des mesures interdisant la participation des enfants à ces jeux du hasard à la base des irrégularités dans les écoles.
Lorsque les enfants s'impliquent à ce jeu, les droits les plus touchés est celui à l'éducation. Certains enfants parviennent même à voler de l'argent pour pouvoir parier. Alors ce sont des choses qui sont tellement néfastes à notre égard.
L'ONG Enfants Avenir et Nave appuie également la décision de la mairie et voudrait que les mesures d'accompagnement soient mises en place pour que les récalcitrants soient sanctionnés. Maître Pierre Biboumbé est le coordonnateur de cette structure.
À l'occasion de la rentrée scolaire de ce mois de septembre, nous demandons vivement aux autorités locales de prendre toutes les mesures nécessaires pour épargner les enfants et à dégager des actions exemplaires aux responsables de ces sociétés qui continueront à impliquer des enfants dans...
Notons que l'Amérique constate également l'insalubrité dans les lieux où les activités de sociétés qui organisent les jeux du hasard sur la ville appellent les responsables à se procurer les poubelles publiques pour la propreté. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Au Congo central, plus de 7000 personnes passent la nuit à la Belle Étoile depuis vendredi dernier dans le village Kimwabi situé à 30 km de la cité de Mwanda dans le secteur de la mer. Leurs maisons construites en paille et dans les îlots de ces villages sont partis en fumée dans un incendie survenu dans la nuit de vendredi 2 au samedi 3 septembre dernier. La société civile Force Vive du territoire de Mwanda qui livre cette information ajoute qu'à cause de cette situation, les enfants de ce village ne se sont pas rendus à l'école hier lundi, jour de la rentrée scolaire. Leurs fournitures scolaires ont brûlé avec tous les autres effets lors de l'incendie. Nana Plurichimambu pour le reportage.
C'était hier lundi que l'autorité locale, en compagnie des membres de la société civile, s'est rendue sur les lieux pour se rendre compte des faits. Georgine Bouanga, membre de la société civile Force Vive de Mwanda qui faisait partie de la délégation, rapporte que ce drame a été provoqué par un bidon d'essence qui a pris feu dans une des maisons construites en paille dans les îlots du village. Des enfants de ces villages de pêcheurs, réputés pour les séchages des poissons de l'océan Atlantique, sont morts calcinés. 300 maisons construites en paille, disséminées dans les campements de Kikalakwaku, Ngalamantebe et Kiyompangu sont toutes détruites. Hier lundi, l'unique école de ces villages est restée déserte. Les enfants n'ont pas pu se présenter suite à ce drame qui a ravagé même les fournitures scolaires. La même source affirme que plus de 7000 personnes, y compris les enfants, dorment en pleine nature. Georgine Bouanga lance un SOS aux personnes de bonne volonté pour assister ces sinistrés.
Les cahiers, les enfants pour la rentrée scolaire, même l'argent, c'est calciné et la population vit maintenant dans la misère. Manque d'abri, manque de nourriture. Nous invitons les humanitaires, les ONG, les associations pour qu'ils viennent en aide aux 7500 personnes qui sont sans abri.
Pour l'heure, cette structure a mis en place un comité restreint qui reçoit toute assistance au nom des sinistrés. Matadi, Nana Plus Riche Mambou, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Burkina Faso, au moins 35 civils ont été tués lors de l'explosion d'un engin artisanal dans le nord du pays. Le véhicule de victime a explosé après son passage sur une mine artisanale entre Ndjibo et Bourzanga. Il faisait partie d'un convoi de ravitaillement qui partait à Ouagadougou. Il était escorté par les forces de défense et sécurité. 37 autres personnes ont été blessées et transportées dans le centre de santé, selon le gouverneur, le lieutenant-colonel Rodolphe Sorgou.
L'invité.
La FAO, le PAM et l'UNICEF collaborent depuis 2 ans maintenant afin de renforcer la résilience des milliers de familles touchées par des diverses crises dans au moins 4 zones de santé du Nord Kivu. C'est notamment Walikale, Itebero, Nyiragongo et la zone de santé de Rwangouba, territoire de Rutshuru. Le projet intitulé « Renforcement de la résilience des communautés affectées par des crises » est financé par les fonds allemands. Nous recevons dans cette édition du journal le chargé d'éducation à l'UNICEF pour nous parler du volet éducation de ce programme. Antoine Maleka est notre invité. Il s'entretient ici avec Bernadette Nyangui. Suivez.
Monsieur Antoine Maleka, bonjour.
Bonjour.
C'est depuis un temps que le consortium UNICEF FAO PAM implémente le projet de résilience. Est-ce que vous pouvez d'abord nous résumer à quoi consiste exactement ce projet-là?
C'est un ensemble ou un paquet des activités que nous mettons en œuvre dans des zones de convergence pour appuyer les populations vulnérables à se relever après les conflits ou catastrophes naturelles qu'ils ont connues. Pour le cas de l'UNICEF, nous sommes dans les secteurs éducation, le secteur nutrition, le secteur WASH et la communication pour le développement.
Si on peut rester dans le volet éducation, quelles sont les activités clés qui sont prévues?
Avant de dérouler un peu les activités rapidement, cette composante éducation vise à faciliter l'accès à l'éducation formelle et non formelle, on pourra en parler, des qualités des enfants vulnérables de 5 à 17 ans dans les aires de santé pour cette première phase que nous avions commencé il y a quelques années.
Et ces activités-là ciblent quels bénéficiaires?
Nous ciblons les enfants, en particulier des trucs de 5 à 17 ans, mais nous ciblons aussi les enseignants parce que pour former les enfants, il faut passer par les enseignants et les directeurs des écoles. Mais nous ciblons dans l'ensemble même ceux qui ne vont pas à l'école, c'est-à-dire les jeunes ou les adolescents qui n'ont jamais été à l'école ou qui ont abandonné l'école à un certain moment pour plusieurs raisons, dont la guerre ou le manque d'argent ou la pauvreté.
Et depuis que vous avez commencé, il y a quand même un bilan, au moins un nombre de personnes ou de bénéficiaires qui ont déjà été atteints.
Évidemment, depuis la formation, nous avons atteint d'abord à Walikale 15 directeurs d'école, parce qu'on avait ciblé pour la première phase 15 écoles, et parmi les 15 directeurs, il y a 3 femmes. Nous avons ciblé déjà 142 enseignants, dont 43 femmes, qui ont été formées sur les différents thèmes qui étaient prévus dans ce projet, et l'ensemble couvre près de 7449 élèves, dont 3780 filles. Évidemment, dans les activités que nous avons mises en place, on a aussi mis en place 15 comités de paix au niveau des écoles, des clubs des enfants qui travaillent pour la paix et à des activités récréatives qui sont en train de réaliser avec l'appui de quelques enseignants qui étaient aussi formés par rapport à ça. Et dans les volets qui concernent la formation au métier, j'en ai parlé pour les adolescents qui sont autour de 14 ans jusqu'à 17 ans. Là, nous avons déjà formé 100 adolescents, dont 27 filles en métier. Et évidemment, les métiers qui ont été choisis par les adolescents, c'était la coupe et couture, la menuiserie, la savonnerie, et la mécanique moto et la pâtisserie.
Si on cherche, bon, il y a des termes qu'on utilise comme IOV et tout ça, on peut aller par exemple dans quel village pour au moins avoir des témoignages ou bien des traces de là que vous êtes déjà passé?
Comme je l'ai dit, pour la première phase, nous avons travaillé à Walikale et nous avons travaillé aussi dans la zone de santé de Itebero. Et là, il y a certains villages où il y a des écoles où nous avons travaillé. Vous pouvez prendre, pour les gens qui veulent bien, des témoignages pour savoir où exactement. Boussissi, à Mobi, à Mondindi, Makana, Kirundu, même à Walikale Centre, pour les gens qui n'ont pas le moyen d'aller un peu plus loin, mais même à Walikale Centre, il y a des écoles qui étaient ciblées pour ces formations.
Alors, connaissant bien la zone, ce sont des zones, dans leur situation géographique d'abord, il y a beaucoup de problèmes en fait. Particulièrement pour votre projet, est-ce qu'il y a-t-il des défis?
Oui, il y a plusieurs défis bien sûr, mais nous essaierons de travailler toujours. Parce que l'UNICEF a l'habitude de travailler avec des partenaires étatiques et des ONG qui existent, mais qui passent par un processus de recrutement. Et là, parmi les difficultés, nous avons vraiment beaucoup de besoins en éducation. On se retrouve avec beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants qui sont en dehors de l'école à cause de tous les chocs que Walikale a connus depuis plusieurs années. Et on est en train de faire le relèvement petit à petit sur base de moyens que nous avons disponibles. Il y a certaines écoles qui étaient vraiment en mauvais état, donnent une bonne matière, mais parfois les infrastructures d'accueil ne répondent pas aux besoins. Il y aura des besoins si les bailleurs peuvent penser à ces volets qui concernent la construction des écoles. Et il y a aussi des problèmes d'accessibilité routière. Pour amener les intrants pour toutes les activités qu'on mène là-bas, dans les domaines de l'éducation, nous avons des kits enseignants, des kits récréatifs. Nous devons contourner, aller jusqu'à Kisangani et redescendre vers le Boutou, puis arriver à Walikale.
Ce volet éducation ou l'ensemble du projet va aller jusqu'à quelle année?
Et les bailleurs nous avaient donné un projet pour presque 4 ans. On peut solliciter une petite rallonge, mais il nous reste actuellement 2 ans.
Jusqu'à quelle année?
2023.
Monsieur Antoine Maleka, merci beaucoup.
Voilà, mesdames et messieurs, complètement terminée cette édition du journal, mise en onde par Alain Goyi, coordonnée et supervisée par Pélé Kipela Mundu. Merci pour votre particulière attention.